France Inter et l'heure de l'instant M, l'instant média avec Sonia De Villers.
Libéré, délivré, vous voulez pas essayer ?
Libéré, délivré.
Bon bah c'est très bien, on va s'arrêter là. À demain. Augustin, joyeux Noël.
Le clivage, c'est bon, tout le monde
oui.
Filme tout. En direct, les films, les courts-métrages, du spectacle. Ouais, hello.
L'instant M, c'est pour vous et ça tient chaud.
Le lapin, couche, c'est exactement Charlie Chaplin.
Croix, une presse indépendante.
Formation numérique.
Le nez sur l'écran internet.
Parce que nous sommes le 24, Canal Plus diffuse ce soir La Reine des Neiges. Exactement comme M6 le programmait déjà l'année dernière à la même date. Vos petites filles n'ont pas fini de chanter le cauchemardesque Libéré, délivré. Dimanche prochain, Arte emboîte le pas à la chaîne cryptée. Toute une soirée consacrée à Walt Disney, documentaire sans concession, certes. Il n'empêche, Disney n'en a pas fini d'incarner l'esprit de Noël. Bonjour Christian Schellbourg.
Bonjour Sonia De Villers.
Bonjour, vous êtes professeur à l'université de Lorraine. Vous avez publié au PUF un ouvrage de référence sur les fictions jeunesse. Il nous fallait bien ça pour déminer le pouvoir de l'imaginaire et des princesses Disney depuis 80 ans. Avant cela, Romain Nigita aussi a son cadeau de Noël. Une 9e saison de Doctor Who, So British. Merci France 4.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Sonia De Villers.
Salut Romain.
Salut Sonia.
Alors Noël revient et avec Noël, c'est Doctor Who qui repointe son nez dans l'instant M. Doctor Who, c'est votre chouchou, saison 9, inédite sur France 4. C'est quoi Doctor Who ? C'est quoi pour le public français Doctor Who ? Parce que nous, on le connaît pas si bien que ça.
Alors Doctor Who, c'est une série britannique de science-fiction et c'est aussi culte que Chapeau Melon et Bottes de Cuir ou Le Prisonnier. Elle a duré de 1963 à 1989.
Là, on vient d'entendre le générique originel.
Le tout premier.
Plus vieux qu'il soit, ouais.
Et donc de 63 à 89, sans aucune interruption. C'est un record pour une série de science-fiction, mais il a quand même fallu attendre son retour à l'antenne en 2005 pour qu'elle soit enfin diffusée en France.
Voilà, donc là, on va entendre le générique réactualisé. C'est toujours le même thème, hein. Ils
Exactement.
Sont restés fidèles à leurs origines.
Et Doctor Who, c'est plus que du patrimoine outre-Manche. C'est un phénomène mondial qui s'accompagne de figurines, de livres, de BD, mais aussi d'expositions, de concerts, de festivals, ça ne s'arrête plus.
Il y a des conventions Doctor Who ?
Exactement, j'y suis même allé, c'est vous dire.
Ça m'étonne pas de vous. Alors de quoi ça cause Doctor Who ?
Bon, en fait, c'est très simple. Le Docteur, c'est un extraterrestre d'apparence humaine. Il a une machine qui lui permet de voyager de planète en planète, mais aussi d'époque en époque. C'est donc un voyage dans le temps et dans l'espace. Et grâce à cela, le Docteur résout des mystères, il affronte des aliens belliqueux, il sauve régulièrement des galaxies entières, et il est aidé par des compagnons qu'il rencontre au gré de ses aventures. Ce sont souvent des humains, et même souvent des jeunes femmes.
Des jolies jeunes femmes. Bon, et alors pourquoi ça marche, Docteur Who ?
Bah d'abord, il y a l'humour qui est typiquement britannique.
Ouais.
Le Docteur est un personnage iconoclaste, farfelu et totalement imprévisible. Et grâce à cela, il désarçonne ses adversaires. En fait, il préfère utiliser les mots plutôt que les pistolets laser. C'est aussi une série qui sait se renouveler, puisqu'en 52 ans d'existence, la série a vu passer 12 acteurs différents dans le rôle du Docteur. Et contrairement à James Bond, il y a une explication dans l'histoire. C'est un extraterrestre, donc quand le Docteur est mortellement blessé, il est capable de régénérer son corps.
C'est complètement tiré par les cheveux.
Mais c'est génial, parce qu'il change de visage, mais il garde tous ses souvenirs. Et donc, à chaque incarnation, il développe une personnalité différente et cela permet à chaque nouvel acteur et donc à chaque nouveau scénariste d'apporter sa patte et son style.
Bon, il faut croire que le public suit. Alors, que vaut la version actuelle, hein ? On vous fait écouter une bande-annonce.
Sorry, I'm late.
He hasn't got a plan yet.
I'm the Doctor and I save people. Here. Now. This is where your story ends.
I'm a doctor. This is the story. En tout cas, ils ont vraiment, vraiment l'accent british.
Ah là, c'est Peter Capaldi, le nouvel acteur, qui a carrément l'accent écossais et qui en est fier. Ce qu'on a entendu, c'est donc la saison 9 qui arrive sur France 4. Et pour moi, c'est une véritable réussite, puisque Capaldi, maintenant qui est là depuis deux saisons, est vraiment à l'aise dans le rôle. C'était lui-même un fan de la série quand il était petit et c'est ça qui lui a donné la vocation pour devenir acteur. Au scénario, on retrouve Stephen Moffat, on le connaît par ailleurs comme co-créateur de l'excellente série Sherlock. Et en parallèle, il est donc à la tête de Doctor Who depuis 5 ans. Et cette nouvelle saison, elle s'avère vraiment plus ambitieuse et plus épique que la précédente, puisque chaque histoire se déroule sur deux épisodes. On a droit à une nouvelle confrontation avec les Daleks, qui sont les ennemis mortels du Docteur. Il y a aussi une histoire de fantôme temporel, et oui. Également une jeune fille qui va devenir immortelle malgré elle, et même une histoire d'extraterrestre qui fait très clairement référence à la crise des réfugiés en Europe. Mais surtout, c'est un conseil, ne ratez pas l'avant-dernier épisode de la saison. C'est un véritable tour de force, puisque Peter Capaldi, l'acteur principal, est seul boule pendant 45 minutes. Et ça en fait l'un des meilleurs épisodes de toute la série.
De toute la série depuis 1963.
Tout à fait, madame.
C'est ça. Est-ce qu'on peut juste vous demander, Romain, à quoi ça ressemble visuellement, Docteur Who? Est-ce que c'est très chiadé, très technologique, bourré d'effets spéciaux, ou au contraire, assez simple et assez rudimentaire?
La nouvelle version, depuis qu'elle est revenue en 2005, est vraiment au niveau des séries américaines en termes d'effets spéciaux. On en prend plein les yeux. Ce qui était une vraie révolution par rapport à l'ancienne version, puisque dans les années 60, la série était en noir et blanc, en vidéo, et tournée dans les conditions du direct.
Ah bon ?
Un peu comme une petite pièce de théâtre qui était répétée pendant une semaine et tournée d'un seul bloc.
Alors, donc, Peter Capaldi, nouveau docteur, où est-ce que ça bouge du côté des autres personnages qui l'entourent dans cette nouvelle saison qui arrive ?
Beaucoup de mouvements, il faut mieux vous préparer, puisque c'est la dernière saison pour Clara, l'actuelle assistante du docteur. Bon, je vous en dirai pas plus, mais elle va clairement nous manquer. Il y a aussi un nouveau personnage qui fait l'événement cette saison, puisqu'il est interprété par Maisie Williams, l'une des vedettes de Game of Thrones, où elle joue Arya. Et dans Doctor Who, elle a un rôle capital, mais là aussi, je vais quand même pas tout vous raconter.
Bon bah donc, à voir sur France 4 à partir de samedi soir. Merci Romain. Allez, Walt Disney maintenant.
L'instant M, M comme média.
Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais.
Christian Schellbourg, je précise que vous êtes en duplex depuis les studios de France Bleu Bourgogne. Et je remercie d'ailleurs nos confrères de France Bleu de vous y accueillir. Alors on entend libérer, délivrer. Christian Schellbourg, quelques mots d'abord sur cet hymne qui a littéralement ravagé nombre de familles partout dans le monde avec ses petites filles qui le chantent à tue-tête depuis 2013.
Ah, libérer, délivrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chanson a participé de façon très active à la modification du caractère initial d'Elsa. C'est-à-dire que la parolière, en créant cette chanson, a véritablement donné à Jennifer Lee la piste pour arriver à véritablement approfondir l'ambiguïté du personnage d'Elsa.
Alors attendez, Christian. Elsa, il faut quand même qu'on raconte aux quelques,
Elsa d'Arundel,
aux quelques auditeurs, les derniers au monde à avoir échappé au rouleau compresseur de la Reine des Neiges. Peut-être qu'ils sont comme moi, qu'ils ont des garçons à la maison et que du coup, ils ont été sauvés par le gong. Donc en gros, la Reine des Neige est adapté du conte homonyme de Anderson, qui a été publié au mi-temps du 19e siècle, et il raconte l'histoire de cette intrépide princesse partie en voyage aux côtés d'un montagnard, de son reine fidèle, qui est tout à fait animé, qui parle, qui réfléchit et qui s'exprime comme un être humain, et puis d'un petit bonhomme de neige qui s'appelle Olaf. Ce qu'ils veulent, tous les quatre, c'est retrouver la sœur de la princesse qui a été exilée à cause de ses pouvoirs qui sont des pouvoirs glaciaux, si je puis dire, et jugés dangereux, Christian Schellbourg.
Au fond, c'est une X-Men, Elsa d'Arundel. C'est-à-dire qu'elle a un super pouvoir, mais ce super pouvoir est une malédiction pour elle. Ça, c'est vraiment caractéristique de l'univers Marvel. En plus de ça, bon, il faut savoir que si on veut aller encore plus profond, il y a des résonances nietzschéennes très très claires. C'est vraiment le postlude de par-delà le bien et le mal. Elsa va le dire, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de loi pour moi. En tout cas, dans le texte original. Et c'est vraiment un écho direct à ça. Donc, si vous voulez, à la fois, on a une chanson qui a été qualifiée d'extrêmement sucrée. En fait, c'est une chanson de la grande tradition de Broadway. Et puis, sur le fond, eh bien, c'est une chanson, en fait, d'une grande subtilité sur ce passage de l'adolescence, et c'est cela qui se passe en elle. C'est le moment où elle rompt complètement avec son éducation.
La particularité de La Reine des Neiges, c'est de raconter l'histoire de deux princesses, et non pas d'un prince et d'une princesse. En quoi ces deux princesses, à la fois, sont en rupture avec la généalogie des princesses Disney, et en quoi elles sont en même temps dans la droite ligne de ces héroïnes ?
Pour la droite ligne, ce sont des princesses, elles sont belles et elles chantent. Pourquoi y a-t-il un vrai tournant ? Probablement parce que la scénariste qui est venue à la fin achever un travail qui a été extrêmement long sur La Reine des Neiges. Il faut savoir que le premier projet de La Reine des Neiges, il date de l'époque de Walt lui-même, à l'époque de Blanche-Neige et les Sept Nains.
C'est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien en quoi ce succès gigantesque en même temps nous replonge dans les racines de l'Empire Disney et dans les racines de l'imaginaire de Walt Disney lui-même. Parce que dès avant Blanche-Neige, c'est-à-dire dès avant 1900, 1937, Walt Disney avait pour projet de créer un film qui était moitié cinéma, moitié animation. Il avait même proposé à Samuel Goldwyn de la Metro-Goldwyn-Mayer de tourner les scènes en prise réelle. Lui, il aurait réalisé les séquences d'animation et l'idée, c'était de tourner, d'après ce que j'ai compris, un biopic de Anderson.
C'est exactement ça. Et là, c'est vraiment la grande idée de Disney, hein, cette alliance de la prise de vue réelle et du dessin animé. Et le projet, en fait, n'a pas vu le jour en grande partie parce que, justement, il n'a pas du tout accepté la façon dont on pouvait représenter cette Reine des Neiges.
Oui, elle est mauvaise, elle est malfaisante, ou en tout cas, son pouvoir pose...
Son pouvoir est malfaisant, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, moi, c'est pour ça que je tiens beaucoup à cette analogie avec les X-Men, parce que je crois qu'il fallait, en quelque sorte, tous les films de super-héros pour qu'elle arrive à être acceptée, d'une certaine manière. Enfin, les super-héros datent d'avant, mais cette version-là, c'est les années 60 seulement. Et il fallait tout ça, parce que sinon, on a un personnage qui est ambigu. Or, les personnages Disney, en tout cas les personnages de l'époque de Walt, et même jusque très récemment, jusqu'à la fin du XXe siècle, sont des personnages qui ne sont pas ambigus. C'est une époque où on conçoit que pour communiquer avec les enfants, il faut avoir un univers manichéen. Et là, on a un personnage qui, effectivement, échappe complètement à cette dualité du bien et du mal.
Alors, en quoi, je le disais, Walt Disney continue-t-il d'incarner l'esprit de Noël ?
On a véritablement un conte qui, à l'origine, est un conte européen, qui se trouve complètement localisé, en quelque sorte, aux États-Unis, par des références très subtiles. Lorsque vous prenez, par exemple, le générique, les premiers mots qui apparaissent sur le générique, c'est « Oz ». C'est-à-dire que on a une référence au Magicien d'Oz. Donc, si vous voulez, on retrouve cette trilogie de personnages qui vient du Magicien d'Oz. Donc là, on est dans quelque chose de complètement américain. Les Marvel, on vient d'y venir également. Et il y a comme ça une façon de lier l'univers européen et l'univers américain. Mais ça, c'est quelque chose qui est très ancien chez Disney. C'est quelque chose qui vient vraiment de l'origine. Et qui permet effectivement de composer une sorte de mythologie universelle, on va dire au moins à l'échelle de l'Occident.
Et en quoi est-ce que cette mythologie universelle vient coïncider avec nos traditions de Noël ?
Alors, il y a en fait deux grands auteurs de Noël dans l'univers anglo-saxon. Le premier, c'est Charles Dickens et son conte de Noël. Bon, Disney est venu en quelque sorte après. Alors en fait, c'est tout simplement une poésie qui est vraiment ancrée dans la météorologie de l'Ouest américain, dans ces pays extrêmement enneigé, dans ces paysages très froids. L'avantage du Noël de Disney, c'est que c'est un Noël qui nous dit ce que l'hiver devrait être, et ce que, bien évidemment, il n'est pas sous nos climats. Et ça compte.
Et encore moins dans les studios à Los Angeles.
Mais par contre, c'est la réalité de Disney jeune, c'est la réalité du Kansas.
Je vous propose d'écouter une très jolie promotion d'époque, Christian Schellbourg. C'est Walt Disney lui-même qui fait la promotion du premier parc d'attractions qu'il a lui-même conçu à l'arrière de ses studios.
Kelvinator Home Appliances present Walt Disney's Disneyland.
When you wish upon a star, makes no difference who you are.
Each week as you enter this timeless land, one of these many worlds will open to you. Here now to tell you about it is Walt Disney.
Welcome.
Donc voilà, Christian Schellbourg, j'ai extrait ce moment de télévision américaine et de cinéma américain, donc du double documentaire que va diffuser Arte dimanche soir, qui est consacré à l'histoire de Walt Disney. Si ça m'a intéressé de relier la Reine des Neiges à la naissance du parc d'attractions, c'est que on comprend très bien dans votre ouvrage consacré aux fictions jeunesse, et c'est le cas avec la Reine des Neiges, que tous les héros de la fiction jeunesse circulent de manière assez extraordinaire entre une littérature de papier, une vie sur la pellicule, sur toutes sortes d'écrans, car ils ont tous leurs avatars en jeu vidéo aujourd'hui, qu'ils sont depuis toujours presque animés à travers des poupées, des figurines et toutes sortes de produits dérivés, dont Walt Disney a d'ailleurs été à la pointe. Bref, ils ont une vie multimédia, et multi-supports qui leur est propre et qui contribuent beaucoup à l'imaginaire des enfants.
Le parc d'attractions, il faut savoir que il s'inscrit directement dans cette logique multimédiatique. Mm-hmm. Puisque Disney lui-même disait que la raison pour laquelle il avait voulu faire des parcs d'attractions, c'était parce que quand, lorsqu'un film était fini, il avait envie de le retravailler. Et un film, ça ne peut pas se retravailler. Et véritablement, on va dire que le parc d'attractions, Disneyland, le premier, est vraiment conçu comme une sorte de film in progress, de film capable de sans cesse évoluer pour toujours permettre une immersion fictionnelle des enfants plus grande et adaptée à toutes les époques.
Nous, les parents, on a l'impression de se faire littéralement dévorer par une société de consommation et par une industrie culturelle protéiforme, polymorphe et toujours plus invasive. Vous, vous dites, c'est assez extraordinaire de voir comment ces personnages, à travers toutes ces formes qu'ils prennent, deviennent des véritables compagnons de route pour les enfants.
C'est vrai que moi aussi, je suis père et donc, mm-hmm. Je n'ai pas eu à acheter les produits dérivés de la Reine des Neiges, mais merci, j'ai beaucoup donné à l'époque de Toy Story.
Et c'est pas fini avec le retour de Star Wars.
Effectivement, on peut comprendre les parents. D'un autre côté, il faut voir le besoin des enfants. Véritablement, c'est par là que les enfants se construisent une mythologie. C'est par là également qu'ils se construisent une culture qui leur permet de dialoguer avec leur père, P-A-I-R-S, mm-hmm. et donc, d'une certaine manière, ils en ont un besoin. Alors, on peut dire ce besoin est créé, mais de toute manière, les enfants ont besoin d'histoires dans lesquelles se plonger, et l'avantage de Disney, c'est qu'elles sont redoutablement efficaces.
C'est ça. Donc, finalement, ça crée une forme de continuum entre des jouets, des films, des livres, des BD, des jeux vidéo.
C'est la fonction de base du conte de fées. Bettelheim expliquait déjà ça, c'est-à-dire que il faut bien qu'on se place dans une personnalité. Alors je sais bien que les psychologues, les psychanalystes, tout ça peuvent avoir à redire sur le choix de ces icônes-là. Mais d'une certaine manière, moi j'ai tendance à dénier à une génération le droit de dire à la suivante si ce qu'elle consomme est bien ou mal. Et après tout, sont les enfants qui ont plébiscité la Reine des Neiges. On ne leur a pas imposé. Il y a des fois des échecs. Il suffit de voir le voyage d'Arlo en ce moment.
Oui, c'est ça. Donc finalement, vous continuez de trouver le pouvoir de l'imaginaire dans la Reine des Neiges. Vous continuez de trouver du merveilleux et un royaume extrêmement riche pour les enfants.
Ah mais c'est le merveilleux au sens le plus strict. D'ailleurs, ça va nous ramener à Noël justement parce que la fête de Noël c'est une fête pour les enfants qui permet effectivement d'avoir une véritable épiphanie. Les cadeaux c'est une sorte d'épiphanie de la magie. Ce jour-là, la magie fonctionne et ils ont la preuve matérielle qu'elle fonctionne. Le cinéma et particulièrement le cinéma de Disney et parce que c'est du dessin et parce que c'est tout le monde sait que le dessin, ça ne vit pas et que quand même ils vivent, le dessin, c'est également cette magie-là. Il faut savoir que s'il y a bien une caractéristique de Walt Disney, l'homme cette fois-ci, c'était vraiment une peur panique de la réalité. Une peur panique du monde, après une enfance qui, de fait, n'avait pas du tout été une enfance enchantée. Et il y a une volonté d'enchanter le monde et ma foi, tous ces jouets servent à cela. Ils enchantent complètement le quotidien de nos enfants.
Merci Christian Schellbourg, merci de nous avoir rejoint à la maison de la radio par l'intermédiaire de nos confrères de France Bleu Bourgogne qui vous ont accueilli pour cette émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les fictions jeunesse, c'est paru au PUF. C'est un ouvrage érudit, certes, mais c'est l'occasion de plonger dans 800 histoires merveilleuses qui continuent de nourrir notre imaginaire. Je vous laisse entre les mains de Bruno Duvic, que vous retrouverez avec Un jour en France juste après les infos. Il attend comme chaque jour vos questions et vos réactions. Je vous donne le numéro du standard, c'est le 01 45 24 7000.